vous êtes à 2000 mètres d'altitude. Il fait chaud, mais une chaleur très supportable, une chaleur de fin de printemps. Une chaleur qui permet à des cactus de pousser, mais en même temps de se retrouver dans un des lieux les plus riches du Mexique, dans un cadre grandiose, au sommet d'une montagne qui offre de tous côtés des vues absolument splendides. Vous avez l'impression d'être au centre d'un Y. Vous avez devant vous des vallées absolument incroyables qui s'étendent à des kilomètres avec la richesse du Mexique. C'est la vallée ou les vallées qui entourent la ville de Oaxaca. Oaxaca, c'était la terre, c'était le lieu qui avait été offert à Cortés juste après sa conquête, lorsqu'il a été répudié par l'Espagne, un lieu qui a été offert au marquis de la vallée de Oaxaca. On comprend que c'était le lieu le plus riche de cette nouvelle Espagne, et on comprend aussi que l'endroit où nous nous situons maintenant, ce centre cérémoniel, eh bien, il n'existait pas vraiment en 1520 à l'arrivée des Espagnols. Il n'était pas visible, c'était des montagnes pelées. On devinait qu'il y avait un site, on devinait qu'il y avait peut-être des tombes. C'est un centre qui en fait était composé d'une vaste esplanade qu'on appelle la Plaza Central et qui était entourée de nombreuses constructions. Il y avait des plateformes et elles se regroupent ainsi autour d'une petite partie de la zone seulement, puisque sa superficie complète fait pratiquement 40 km carrés. Vous êtes à Monte Albán. Monte Albán, un des sites archéologiques les plus étonnants du Mexique précolombien. Vous êtes là sur cette esplanade qui fait plus de 300 mètres de longueur, 200 mètres de largeur, qui a été aménagée de manière complètement artificielle. Il a fallu araser la partie supérieure de la montagne, il a fallu former des terrasses au moyen de remblayage. Et quand on voit la configuration du terrain, on comprend que tout cela va orienter les différentes constructions. Il y a un monticule assez étrange là au centre, on l'appelle le Temple J. Au premier coup d'œil, on est frappé par quelque chose qui nous touche, c'est la sobriété de ces lignes architecturales, une sorte d'austérité qui est bien en harmonie avec ce cadre absolument prestigieux, avec ces bâtiments qui sont élevés un peu comme une couronne en dessus des vallées que je décrivais tout à l'heure. Cette sévérité des lignes, je crois qu'elle est atténuée, en tout cas elle l'était à l'époque précolombienne, par l'emploi du rouge, enfin de la polychromie. Tout ceci posé dans un paysage vert, jaune. Regardez les montagnes. C'est l'heure où le soleil se couche. On voit les ombres se porter sur la grande place. À l'horizon, il y a un peu de rose qui se dessine. Les montagnes sont douces. La vallée de Oaxaca est à son heure de grâce. Il fait 20 degrés. Vous vous sentez bien dans votre peau. Vous êtes à Monte Albán. Un jour dans le passé, à 6 heures du matin, une autre heure de grâce où le même rose apparaît dans le ciel, un jeune archéologue était en train d'abandonner une tombe. Il venait de sortir et là, il sentait encore comme imprégnée en lui cette odeur étrange d'une lampe, une simple lampe à essence, comme on les utilisait dans les années 30. Et il sort de cette tombe sombre, noire, et il respire cet air qui est un peu plus frais à cette heure-là, cet air du petit matin. Autour de lui, il y a des oiseaux. C'est assez étrange de se retrouver dans ce lieu qui est tout de même un peu désert. Vous êtes au sommet de Monte Albán, sur les à-côtés du site, et vous voyez non seulement ces oiseaux qui pépillent un peu partout, mais vous retrouvez ces montagnes roses avec ces couleurs étranges. Il y a aussi cette qualité à la fois de la matière minérale, parce que certains endroits sont plus ou moins dénudés. D'autres ont au contraire une douceur qui est due à une végétation qui correspond à 1500 mètres, 1600 mètres en contrebas. Je parlais de cactus tout à l'heure. Il y a naturellement le nopal. Le nopal, c'est le figuier de Barbarie. Vous retrouvez aussi ces étranges formes, un peu comme des orgues ou des chandeliers. Un peu plus loin, des agaves. Des agaves avec une couleur assez curieuse. Elles sont bleutées. Elles servent à faire un alcool qui se nomme le mezcal. Oh, rien à voir avec la mescaline, mais c'est un peu comme le tequila. Ce sont des alcools locaux. Et dans la région de Oaxaca, il y a des milliers de plantes comme ça. Il y a une faune et une flore très étranges. on se retrouve dans ce qu'on appelle le Mexique de notre enfance. Et quelques minutes après, cet archéologue voit le soleil qui commence à monter dans le ciel sur ces trois vallées qui l'entourent. Et il comprend que ces terres qui sont à la fois bleues, qui sont un... Il y a aussi des tons ocre, il y a ce vert très profond parce qu'il y a de l'eau, il y a de la végétation, il y a de l'agriculture. C'est un nouveau jour qui commence et ces jeux de lumière, ces ombres, ces odeurs que l'on ressent partout aussi, ces différentes... Cette espèce de mélodie étrange, je dirais, qu'on ressent lorsqu'on est à Monte Alban, c'est quelque chose qu'on contemple ainsi depuis les terrasses avec ses temples. Il y a déjà un millénaire que Monte Alban existait. Et là, à ses pieds, il voit s'étendre un cimetière. Oh, un cimetière zapothèque, c'est la civilisation qui est née là au début de notre ère, dans cette région. C'est un cimetière qui est vieux d'à peu près 18 siècles, c'est vrai. Mais il comprend que ce qu'il a trouvé ce matin-là, ce qu'il vient de voir, eh bien, c'est peut-être la tombe la plus riche de tout le continent américain. Il a une idée fixe dans sa tête, Alfonso Caso, puisqu'il s'agit de lui. Cet archéologue se dit que, en fait, quand on est enfant, essayez de vous rappeler, on a tous rêvé un jour de découvrir un trésor. Eh bien, lui l'a véritablement trouvé. Un trésor qui va bouleverser le monde scientifique, mais un trésor comme jamais on avait pu songer à en trouver un en terre mésoaméricaine. Et cette idée fixe, elle lui donne l'impression de rêver, parce qu'il avait dans ses mains, là vous le voyez, il sort de la tombe et il porte une simple, oh, vous savez, ces petits cartons à chaussures. Vous voyez la forme, vous voyez la grandeur. Il a simplement placé au fond un peu de cotonnade, un peu de ouate, et là il y a 35 objets, mais des objets qui brillent sous ce premier soleil, ce sont des objets d'or. Et dans sa mémoire, il essaye d'imaginer devant ces ruines qu'il a maintenant sous les yeux, comment on a pu créer, comment on a pu travailler des objets de façon aussi incroyable. Il y a partout de la poussière, il y a des pierres qui sont tombées de la voûte, de la tombe d'où il sort. Il y a eu devant lui cette brillance assez étrange du cristal. Il a vu des os de jaguar qui sont travaillés avec des scènes historiques. Il vient de découvrir des jadéites. Il a vu des coupes transparentes qui ont été faites dans du cristal de roche avec une forme absolument pure et remarquable. Et il imagine aussi Cortés. Cortés, lorsqu'il écrivait à l'empereur Charles Quint et qu'il lui décrivait le trésor les trésors de Montezuma. Montezuma, c'était le dernier grand empereur, celui qui a rencontré le conquistador aux alentours du 8 novembre 1519. Et c'est Bernal Díaz del Castillo, le secrétaire qui avait une vingtaine d'années à l'époque, le secrétaire de Cortés, qui avait décrit pour la première fois ces joyaux indiens lors de la nuit terrible où ils avaient dû quitter Tenochtitlan, emportant tous, chaque Espagnol qu'ils étaient, sur leur dos ce butin afin de s'enfuir devant les Aztèques qui étaient en guerre et qui avaient envie de les chasser de la grande ville. Et là, il s'imaginait comment ces hommes avaient d'ailleurs joué avec des cartes qu'ils avaient découpées dans les peaux des tambours de guerre. Des cartes à jouer, vous savez, ces premières cartes espagnoles, on tirait au sort, on a tiré aussi à la courte paille. On avait joué ce trésor, on avait partagé tout cet or, on avait fondu tout cela. Et il imaginait ces objets qui avaient été fondus, il imaginait ce qu'il avait sous les yeux. Une simple petite caisse de carton, sa caisse de chaussures avec 35 objets qui, tout à coup, dans le monde, allaient nous faire comprendre que tout ce qui avait été fondu depuis le XVIe siècle, tout ce qui avait disparu de la planète, réapparaissait. Alfonso Caso, c'était un peu Albert Dürer, qui là-bas à Bruxelles, lors du retour des caravelles, lorsque ses premiers trésors aztèques avaient traversé l'Espagne, la France, étaient arrivés en Belgique, lui avait fait comprendre qu'il y avait de l'autre côté de la planète des orfèvres, des gens qui avaient su tailler, qui avait su marteler, qui avait su fondre le plus beau, le plus précieux des métals, l'or, l'argent, le cristal, la jadéite. Non, les conquistadors, les chroniqueurs, durèrent, personne n'avait menti. En regardant ces objets, Alfonso Caso, c'est un, je le disais, un jeune archéologue. Il porte des lunettes rondes, il a la tête de l'emploi. Il est simplement habillé d'une chemise, ses chemises d'explorateur, avec des pantalons serrés au mollet, avec des bottes, vous savez, ces bottes hautes qui sont lacées jusqu'au sommet. Il porte sur la tête un chapeau, ces chapeaux qui font penser aux coloniaux de l'époque, qui se baladaient en Afrique, en Asie, un peu partout. Un homme assez sévère, assez curieux, assez intériorisé. Et là, il a compris, effectivement, simplement devant sa caisse, sa petite boîte à chaussures, que personne n'avait menti, que les grands trésors du XVIe siècle avaient bien existé. Et quand il regardait comme cela et qu'il sortait en prenant dans sa main le pectoral de Chipetotec, c'est le dieu du printemps, c'est le dieu des orfèvres justement, qu'il voit ce portrait étrange, cette tête couverte d'une peau, la peau d'un ennemi qui a été vaincu ou peut-être d'une femme qui a été sacrifiée, et exactement comme je pourrais évoquer le printemps, ce printemps qui revêt ainsi la terre, qui recouvre la terre de cette nouvelle végétation, exactement comme on l'a fait sur ce bijou d'or fondu qui avait été fait sur un moule très précis. Et on ressent que c'est une véritable peau, une peau d'or posée sur quelque chose, comme la végétation, je le disais, est posée par la nature sur la terre chaque année. Et en regardant ce portrait, ce visage monumental et sévère de Chipetotec, il comprenait cette relation étrange qu'il pouvait compléter en y mettant, par exemple, les plumages, la décoration de plumes, et puis surtout toutes ces coiffes qu'il avait vues déjà sur les urnes funéraires, ces urnes qui étaient très connues dans le monde entier, qu'on avait retrouvées dans toutes les grandes tombes zapothèques. Mais ce masque avait quelque chose de spécial. Il voyait cette couronne extrêmement simple, avec ces fils d'or extrêmement raffinés, qui étaient placés comme des cordons et qui retombaient de chaque côté, qui tenaient en fait le masque, qui tenaient la peau du sacrifié sur les côtés. Il y avait ces grandes boucles d'oreilles qui avaient été sculptées comme des véritables perles, comme on l'aurait fait pour pouvoir glisser ceci dans le lobe distendu de l'oreille du précolombien. Il y avait aussi, vous savez, le besoté. C'est quelque chose qui surprend toujours lorsqu'on voit un portrait précolombien de noble ou de dieu, comme ici pour Chipetotec. C'est cet étrange bijou qui se plaçait dans le menton. Plus exactement, prenez votre lèvre inférieure, vous la soulevez et vous imaginez que vous faites un trou entre le bas de la lèvre, là, juste sur vos gencives, à la hauteur de vos gencives, et vous faites une petite perforation et vous glissez une sorte de T à l'intérieur que vous écartez doucement et que vous laissez placer sur les gencives. Et à l'extérieur, vous pouvez laisser la pierre ou l'or apparaître, et pourquoi pas une petite sculpture, un aigle ou une figurine qui a de l'allure, qui sortira comme ça à 4 ou 5 cm en dehors de votre bouche et qui pendra un peu sur votre menton. Oh, ça n'empêche pas de mâcher du chewing-gum de l'époque, le chiclet, le fameux chewing-gum que les femmes d'ailleurs mâchaient couramment, mais ça n'empêchait pas de manger, ça n'empêchait pas de boire. C'était simplement le bijou à la fois des dieux et des grands guerriers. Sur ce masque, il y a ce besoté, et puis il y a aussi cette façon étrange de trouver des yeux qui sont à moitié fermés, un peu comme des demi-lunes inversées. Vous savez, cette impression de voir la peau d'un mort sur quelqu'un qui est vivant. Il y avait aussi cette bouche qui est à peine entrouverte et ces petits triangles qui étaient gravés sur les joues, sur le côté, et qui nous montrait des grecs, des dessins, à peine insinués, mais qui faisaient comprendre que ce masque était porteur de messages, et qu'il y avait aussi de l'écriture, comme s'il y avait des tatouages, comme s'il y avait une façon de nous compléter l'image d'un dieu. Il regardait cela, pour la première fois, il découvrait ce bijou, cet incroyable masque, que je vous décrirai peut-être tout à l'heure, parce que quand on se met vraiment dans la peau d'Alfonso Caso, on imagine la surprise devant de tels trésors. Il pensait à Chipetotec, mais il pensait aussi à ces chevaliers tigres, à cette image du guerrier vainqueur, à ces signes un peu inquiétants qui sont placés sur sa coiffe. Il avait eu le temps de voir aussi tous ces pendentifs, ces colliers, ces bracelets qu'il avait déposé dans cette petite caisse, et maintenant il avait déjà envie de déchiffrer ce qu'il trouvait sur ses bijoux, parce qu'il venait de découvrir un style artistique tellement différent, tellement nouveau de tout ce qu'on connaissait jusqu'alors, qu'il avait compris que là, dans cette tombe numéro 7, il avait découvert quelque chose qui n'était peut-être pas zapothèque. Quand je parle de Montalban, du Montalban zapothèque, du Montalban classique, eh bien, il comprenait que d'habitude, dans ces tombes, dans ces cimetières zapothèques, on trouvait en principe des choses très simples en céramique. Mais là, il avait trouvé des os, il avait trouvé ses bijoux, il avait trouvé une écriture qui était vraiment étrange, je dirais même étrangère. Et c'est là qu'il avait compris qu'il y avait eu des intrus qui avaient peut-être simplement voulu utiliser cette splendeur de l'acropole de Montalban et qui avaient peut-être voulu réenterrer, remettre en valeur un lieu sacré. C'était peut-être une autre civilisation. Alfonso Caso venait de découvrir les premiers objets de l'époque mixtèque. Il venait de comprendre que c'était possible qu'il y ait une présence différente en ces lieux et que Montalban n'était peut-être pas seulement zapothèque, mais que les mixtèques venus beaucoup plus tard, au 10e, 11e, 12e siècle, avaient dû utiliser cette tombe, avaient dû nettoyer les os des zapothèques qui y étaient encore, peut-être même enlever certaines urnes, certains vases et déposer pour la première fois ce que le Mexique ne connaissait pas, c'est-à-dire l'orfèvrerie. Ce qui était venu du sud, là-bas, de Panama, de Colombie, et finalement, ces objets étaient la révélation d'un art nouveau. Les Mixtecs étaient les grands orfèvres du Mexique, ils le resteront jusqu'à l'arrivée des Espagnols. En fait, l'histoire de la tombe numéro 7 commence en 1932. C'est la date de sa découverte. Mais il y avait déjà 5 ans que Alfonso Caso était monté pour la première fois à Montalban. Il était monté en compagnie d'un archéologue italien qui s'appelait Callegari, là je le prononce à l'espagnol, et il avait remarqué des signes mystérieux sur des stèles. Les stèles, ce sont ces arbres de pierre, ce sont ces sculptures étranges qui sont souvent rectangulaires ou avec le haut arrondi et qui sont fichées en terre. Des signes qui faisaient penser à un autre âge. Et bien que Montalban, disait Alfonso Caso, était certainement une simple montagne de la vallée de Oaxaca, il pensait que c'était un lieu avec des limites imprécises et qu'en fait on pouvait aller jusqu'à San Martín, jusqu'à Jojocotlán. Et il avait remarqué petit à petit qu'il y avait certainement non pas un site, mais des milliers de petits sites dans la vallée de Oaxaca, et que là autour il y avait comme une sorte de chapelet de sites secondaires. Et en observant les différents monticules autour de la grande montagne sacrée, il avait compris qu'il y avait des réserves archéologiques absolument incroyables. Et ces gamios qui va essayer de travailler avec lui. Il y a aussi un certain Martin Bassan, vous verrez que c'était l'inspecteur de la zone et qu'il est important dans l'histoire. Et ce même Gamio avait donné une idée assez curieuse. Il avait pensé que si on commençait à explorer cette région, il fallait un projet énorme et qu'il faudrait surtout commencer à faire un peu de politique, et c'est ce qu'il va faire pour essayer de... essayer de trouver de l'argent pour picorer comme cela d'un endroit à l'autre ce qui deviendra ce cimetière incroyable et puis surtout le hasard de la tombe numéro 7. Une montagne parmi d'autres montagnes, et puis ces deux villages qui vont donner leur territoire à l'État grâce à Gamio, qui va obtenir ceci de ces deux communes. On va pouvoir créer tout à coup la zone archéologique de Monte Alban. Je vous le disais, Martin Bassan va être nommé inspecteur de la zone et on va commencer ce projet d'exploration. Et c'est en 1926 que l'on pourrait peut-être le mieux situer l'endroit. Les paysans avaient simplement dû abandonner leur champ parce qu'on a semé, bien sûr, du maïs et du grain sur le site de Monte Alban avant que l'on commence son exploration. Et quand Casso est arrivé pour la première fois au sommet de cette montagne qu'on devinait sacrée, qu'on devinait déjà centre cérémoniel, il y avait sur la grande place, il y avait encore, vous savez, les traces de labourage, enfin, tout ce qui faisait qu'on avait l'impression que les paysans étaient encore là et que tout était encore aux mains de ces mêmes paysans. Il y avait encore les cannes séchées de ces grands champs de maïs, ces cannes que l'on casse pour que le grain puisse sécher sur la plante. Tout était encore en place. Et les monticules qui étaient sur les côtés, où l'on retrouvera les palais, les temples, étaient encore recouverts de cèdres, d'arbustes, d'herbes, des cactus que je décrivais tout à l'heure. Monte Alban, c'est vraiment quelque chose qui a dû exercer une fascination absolument incroyable sur Alfonso Casso. Et il se rappelle de ce matin où il est arrivé... C'était sûrement la première fois où il a aperçu le site. Un matin, comme il y en a parfois à Oaxaca, où le sommet de cette montagne est encore pris dans les nuages, il y a une sorte de brouillard, un brouillard épais, un brouillard blanc, qui couvre le sol, vous savez, le sol de cette place qui est un peu comme une cuvette. Et là, il voyait surgir autour de cette nappe blanche ces monticules un peu comme des îlots. Les chevaux qui étaient là et qui mangeaient, qui étaient en train de se nourrir sur la place, étaient invisibles, mais on voyait seulement leur tête qui montait de temps à autre en dessus du brouillard, en dessus de cette neblina, de cette étrange brume. Et Il voyait aussi briller tout cela de façon extrêmement curieuse, parce que le soleil venait de se lever et il avait l'impression de marcher dans le pays des nuages. Il était loin du monde, de toutes les préoccupations habituelles. Il était loin de Oaxaca, cette ville qui est en contrebas de cette superbe capitale de l'état de Oaxaca, un peu coloniale, encore en rien précolombienne. Il venait de comprendre que Montalbán était un lieu choisi, choisi par les dieux, choisi par les hommes. Et à cette époque, il fallait traverser une rivière, il fallait ensuite monter, oh, il fallait une heure et demie pour faire ces 9 kilomètres qui nous séparent du sommet de Montalbán. La vallée est à 1500, 1600, là-haut vous êtes à 2000, vous êtes effectivement dans les nuages. Il va prendre quelques photos, il va essayer d'étudier les stèles, les pierres, ces linteaux qui traînent un peu partout, et puis il va retourner à Oaxaca. Et là, il a compris d'un seul coup que cette montagne qui avait été entièrement transformée par l'homme, qui avait été modifiée complètement par l'homme, avait laissé derrière elle des traces. Elles étaient un peu effacées, mais il venait de découvrir une civilisation qui, petit à petit, allait révéler ses secrets. Une civilisation qui, grâce à l'exploitation, à l'exploration de ces monticules, de ces tombes, de ces patios, de ces terrasses, allait petit à petit se révéler au monde. Montalbán, et puis tous les petits sommets aux alentours, El Gallo, El Plumaje, El Pequeño Albán, tout cela laissait voir aussi des temples, mais petit à petit, il n'y avait pas seulement que des sanctuaires à ces endroits-là. Petit à petit, on allait découvrir que tout autour, il y avait des dizaines, des centaines de tombes autour de la montagne sacrée des Zapotèques. Ailleurs, au Mexique, on était en train de travailler à Teotihuacan. Mais là, à Oaxaca, tout à coup, on se trouvait devant quelque chose de complètement nouveau. Il y avait bien sûr des descriptions qui avaient été faites par les voyageurs. On parlait de cités fortifiées, on parlait de palais, bien sûr. Et on parlait déjà de céramique, mais surtout d'orfèvrerie. Or, personne n'avait vu, il y a bien quelques dizaines d'objets qui traînaient dans les musées du monde, mais des descriptions avaient été faites surtout au XVIe, au XVIIe siècle, voire au XVIIIe. Mais ce qu'on cherchait maintenant, c'était confusément de retrouver ce qu'était la culture zapothèque, ce qu'était la culture mixtèque. Et c'est seulement en 1927, après des efforts incroyables, qu'on allait pouvoir lire petit à petit ces signes qui étaient gravés sur les stèles, sur les pierres des palais, et dans ces sanctuaires, et là-bas, dans les tombes. Petit à petit, eh bien, Alfonso Caso allait faire renaître Montalbán. C'était quelque chose qui était complètement inconnu. Oh, bien sûr, je le disais, quelques musées étrangers avaient décrit certaines pièces archéologique un peu étrange, on disait qu'elle venait de Oaxaca, mais on était vraiment là tout à fait au début. Et en déchiffrant les stèles, petit à petit, il va retrouver la date d'un jour, la date d'un mois, il va découvrir le calendrier précolombien des Zapotèques, qui est complètement différent de celui des Mayas ou de celui des Aztèques. Et pied à pied, main à main, dirais-je, il va voir sur des stèles des petites mimines, des petits pieds, se dire tiens, c'est peut-être un verbe, tiens, ceci veut peut-être dire monter, descendre, faire la conquête. Il va retrouver le glyphe zéro, et puis il va découvrir le ciel aussi, le glyphe du ciel, avec cette énorme bouche ouverte, comme cette gueule qui avale tout, cet immense serpent qui recouvre la voûte céleste. Le monde des Zapotèques s'ouvrait par l'écriture. En 1927, Alfonso Caso était sûr que les Zapotèques et les Mixtèques étaient deux peuples différents. Grâce aux hiéroglyphes, il avait remarqué que ce qui était sur les stèles, dans les tombes, était bien une écriture différente de celle qui se trouvait sur les livres pliés en accordéon qu'on avait retrouvés de l'époque coloniale ou juste avant la conquête. Il y avait donc les Zapotèques qui étaient arrivés les premiers. Ils avaient été suivis des Mixtèques. Et en 1927, il avait trouvé un peu d'argent. Des privés lui avaient donné de l'argent. Il avait organisé un groupe de donateurs. Il avait aussi décidé d'obtenir une concession fédérale et il va commencer son aventure. Et le gouverneur de l'État lui a demandé « Mais enfin, quand c'est que vous allez commencer l'exploration véritable de Monte Alban ?» Il a répondu « C'est simplement quand vous aurez fait une route. » Et c'est en 1930 qu'on va la commencer. Oh, c'était une simple piste qui va être ouverte sur le flanc de cette montagne. Bon, il y avait eu le tremblement de terre qui avait détruit Oaxaca le 14 janvier 1931. Il y avait eu cette saison des pluies absolument incroyable qui avait suivi et qui avait tout démoli, enfin qui avait surtout empêché la reprise immédiate des travaux. Donc c'est seulement à partir de 31 que finalement on va pouvoir commencer véritablement le travail. Oh, Caso était un jeune archéologue. Il avait juste travaillé un peu du côté du Michoacán, là-bas à l'ouest du Mexique. Il avait travaillé sur les ruines de Zacapu. Et finalement, ça n'était pas un débutant, c'est vrai. Il avait été aidé, il faut le dire, par Martin Bassan. Il y avait Eulalia Guzmán et puis un certain Juan Valenzuela, qui était son aide principale. Oh, ce sont des gens d'importance parce que quand on découvre une tombe comme la tombe numéro 7, ces gens-là vont devenir aussi célèbres que ceux qui ont découvert celle de Toutankhamon, là-bas en Égypte. On va fouiller un peu partout, on va découvrir cet étrange monument J, on va découvrir les danzantes, tout ce que l'on voit aujourd'hui sur le site de Monte Alban. Et puis, pour la première fois, on commence à rechercher des tombes. Alors, on croit que la numéro 1 est une tombe, non? Eh bien, c'était simplement un couloir qui pénétrait à l'intérieur d'un des monuments de Monte Alban. C'était ce couloir étrange qui coupe en deux le monument J, justement. Donc la numéro 1 n'existe pas, c'est seulement lorsqu'il a découvert la 2 qu'il a vu pour la première fois une tombe pas très loin de la plateforme nord, mais déjà à l'extérieur du site. C'était une tombe en forme de croix, et là il a retrouvé quelques vases, quelques os, et finalement il a compris que ces tombes cruciformes étaient utilisées comme des ossuaires. C'est important parce que c'est une mode qui va durer quand il a découvert la 3, la 4, la 5, la 6. Chaque fois il retombait sur le même style, et sur la tombe en forme de croix, en général, il y avait un temple qui était carrément formé autour d'un patio, et c'était dans le patio qu'on pouvait finalement trouver l'entrée même de la tombe. Or, lorsqu'il a travaillé à la numéro 7, cette tombe, il l'a découverte un peu en dehors, elle était de l'autre côté de la route, c'était un peu une exception, elle n'avait pas de patio central, et il a regardé le temple qui était en ruine, il l'a étudié, il a creusé autour, et il a vu qu'en fait il était déjà abandonné, qu'il était déjà détruit depuis plusieurs siècles. C'est-à-dire qu'au fond, il avait été détruit certainement avant la conquête, même peut-être avant la conquête des Mixtèques, qui avaient remplacé les Zapotèques sur le site, et qu'il ne restait en fait que la base cimentée, qu'un mur qui faisait 20 ou 30 centimètres de hauteur. Donc, l'endroit était déjà en ruine au moment de l'arrivée des Mixtèques. Et il va trouver, petit à petit, dans le nettoyage, un sol parfait, en stuc, absolument brillant et lisse. Et là, il va d'abord demander à Valenzuela de creuser une tranchée. C'était un samedi, le matin, et Caso était descendu en fait à Oaxaca avec sa camionnette pour aller chercher les salaires de tous les ouvriers et des peons qui travaillent depuis déjà quelques mois maintenant sur le site. Il était revenu à peu près à 11h en compagnie de Maria, son épouse, et Valenzuela allait faire quelque chose d'étrange. Vous savez que lorsqu'on vit une fête zapothèque, eh bien systématiquement on offre des cadeaux, et on dit Guelaguetza, c'est un peu l'offrande. C'est une coutume qui continue à Oaxaca où, au mois de juillet, les deux lundis qui suivent la mort de Benito Juárez, on fait cette grande fête des offrandes de la Guelaguetza. Tous les Indiens de tout l'état de Oaxaca viennent offrir au gouverneur une grande fête, des danses, des légumes, des fruits, toutes leurs produits. production. Et là, ce matin-là, lorsqu'Alfonso Caso est arrivé devant ce qui allait être la tombe numéro 7, eh bien, son collègue lui a simplement glissé autour du cou un collier de jadéite et il lui a dit « Gelaguetza ». C'est un simple geste, mais c'était la première chose que l'on avait retrouvée. Il y avait là, juste sous le stuc, un superbe coquillage. Vous savez, ces grosses coquilles marines en forme de strombe qui permettent de souffler à l'intérieur et de devenir une sorte de trompette, une trompe qui a un son guttural étrange. Il y avait ce collier de jadéite et quelques boucles d'oreilles. C'était une offrande qui était juste sous le stuc. Il devait y avoir quelque chose d'important. On attendait la suite. Et c'est vrai que de manière beaucoup plus fébrile, ils vont retirer naturellement tout ce qui se trouvait en surface et ils vont découvrir non seulement une entrée, mais petit à petit la forme supérieure de la tombe. Ils vont découvrir un escalier et on voyait bien qu'il disparaissait sous le stuc et on va faire un trou sur le toit de cette tombe. Alors, quand je dis toit, c'est vrai que ça ressemble tout à fait à la forme d'une maison, même s'il y a cette forme cruciforme, il y a effectivement des dalles qui sont posées simplement comme le serait le toit d'une hutte. Et là, on va soulever une de ces dalles et on va essayer de se glisser à l'intérieur. En les ayant retirées, on avait de la peine à descendre à l'intérieur, mais Valenzuela était quelqu'un de très maigre, de très fin, et Caso a simplement pu illuminer avec sa lampe l'intérieur de la tombe pendant que l'autre se glissait à l'intérieur. Et la première chose qu'il a remarqué, c'est un crâne qui brillait, et à côté quelque chose qui brillait encore plus, une sorte de coupe, une coupe noire qui lui a paru être comme une coupe de céramique polie. C'était en fait la première coupe de cristal de roche. Quand pour la première fois, on a touché une véritable coupe. Oh, vous savez, c'est aussi grand qu'un petit bol, comme un calice en fait, avec une forme très douce sur le bas. Quand on voit briller un objet comme ceci, quand on imagine pour la première fois cet objet brillant sous une lampe, on comprend le premier choc de Caso. Et Valenzuela est descendu, et là, il a eu le souffle complètement coupé, et il n'a pas pu parler, il était muet, sa lampe à la main, et on imagine Caso avec le cœur qui battait, qui se demandait ce que l'autre avait pu apercevoir. Il avait vu pour la première fois, à travers cette lumière de la lampe, de cette lampe à essence, il avait vu briller des perles d'or. Il avait vu briller le cristal de roche de tout à l'heure. Mais il y avait d'autres pièces de cristal, des boucles d'oreilles, des perles encore, de véritables perles, des perles que l'on avait pêchées certainement dans le Pacifique, que l'on avait retrouvées dans des coquillages. Il y avait des centaines de morceaux et de pièces de jadéite, des plaques de turquoise qui brillaient aussi parce qu'elles étaient dispersées, elles étaient posées auparavant sur d'antiques mosaïques, elles représentaient en fait des décors sur des crânes ou sur des plateaux de bois. Et au centre, il a vu un vase couvert de poussière, et lorsqu'il a approché sa lampe, il l'a illuminée et il a glissé la lampe à l'intérieur et tout à coup elle est devenue transparente. C'était le plus beau vase d'albâtre qu'on ait jamais trouvé. Cette espèce de marbre mexicain transparent, le tecali des Aztèques, qui était venu certainement emporté depuis l'état de Puebla et qui avait été taillé. Imaginez-vous une coupe parfaite qui serait molle. Vous prenez le centre, vous serrez, elle prend la forme d'un 8. Un 8 très très doux, et pourtant c'est de la pierre dure. Vous prenez une carotte de pierre, vous prenez un vilebrequin avec simplement une ficelle et un arc, et vous commencez à tailler doucement. Vous en avez pour une année au moins.
Thank you.
Vers 14h30, ils avaient fini de rêver. Ils décidèrent de fermer la tombe, parce que découvrir un trésor pareil, c'était dangereux. Ils étaient seuls là-bas, sur cette montagne de Monte Alban. Ils étaient seuls aussi à Oaxaca, à connaître ce secret. Ils vont garder ce secret pendant plusieurs jours et décider de reprendre l'exploitation ou l'exploration par la porte, par les escaliers. Et lorsqu'ils ouvriront cette porte devant laquelle il y avait trois urnes funéraires extraordinaires qui représentaient le dieu Kosiro, c'est le dieu Tlaloc, le dieu de la pluie, des apothèques, il y avait le vieux dieu au centre, ce vieux dieu du feu, qui gardait ainsi l'entrée de la tombe, ils allaient finalement, véritablement découvrir leur trésor. Un trésor où il y avait non seulement des objets et des joyaux par dizaines, mais il y avait aussi cette couronne incroyable faite d'une seule grande plume d'or. Il y avait aussi ces objets qui, eux, étaient peut-être plus modestes, ces os de tigre qui étaient entièrement gravés et qui étaient travaillés avec une écriture extrêmement fine. Il y avait ces os d'aigle, ces objets qui étaient des objets de culte, bien sûr, mais qui étaient aussi des objets de décor. Et là, petit à petit, ils vont décider de prendre les choses les plus importantes, en notant bien sûr où étaient ces objets. C'est comme cela que petit à petit la petite caisse, le petit carton à chaussures va se remplir de ces 35 objets. Et j'imagine très bien Casso qui rentre maintenant à Oaxaca avec sa vieille camionnette et qui arrive à la maison. Il arrive devant ses amis, devant ceux qui l'ont aidé, et il déballe tout ceci sur la table de la cuisine, sur la table de la salle à manger. Et Marie, sa femme, qui n'avait pas dormi de toute la nuit et qui avait dû s'occuper de ses enfants, qui étaient malades, va se familiariser petit à petit avec ce trésor. Et il y aura toutes sortes de malédictions qui vont être formulées contre les Casso, parce que lorsqu'ils vont revenir à Monte Alban, ils vont naturellement continuer l'exploration, et on va prétendre que, comme pour l'Égypte, il y avait certains malheurs qui allaient tomber sur leur famille. Il y a eu des télégrammes étranges entre eux et leurs parents, où déjà l'information avait passé, et dans les journaux on disait que Casso était très malade. Ils étaient à 600 km de la maison, et bien sûr il a fallu montrer que tout allait bien, mais c'était surtout la conservation de ce trésor qui a été difficile. Et puis l'habitude au jour le jour, l'habitude à prendre, de devenir célèbre. Et après une trentaine d'années, on se rend bien compte à quel point ces gens-là, quand Casso nous racontait cela ou me racontait cela dans les années 60, eh bien on comprend que ça n'est pas évident de devenir le découvreur de la tombe la plus riche de toutes les Amériques. Quand Maria s'exclamait aussi qu'elle avait vu la chose la plus belle du monde et que le masque de Chipetotec restait la plus belle chose qu'elle ait vue dans sa vie. Il y a une anecdote assez sympathique. Lorsqu'ils fouillaient la tombe, tous ensemble, il y avait bien sûr cette façon de devoir travailler agenouillés, carrément dans la poussière, et de noter chaque objet. Et ces gens-là, ils passaient des journées entières à l'intérieur de cet endroit. Et c'est leur ami qui avait pris l'habitude de fumer des cigarettes allemandes. Vous savez, ces cigarettes qui, à l'époque, avaient un petit embout doré. Et ils travaillaient comme on travaillait à l'époque, et on laissait carrément les filtres à l'intérieur de la tombe. Et Maria, très souvent, tombait sur un filtre en disant « Tiens, on a encore oublié un bijou. » Et c'était simplement un filtre à cigarette. C'est pour vous montrer simplement que l'aventure de l'époque était une aventure et que l'archéologie n'était pas encore celle que l'on connaît aujourd'hui. Mais finalement, quand on voit les dessins et les photographies de Casso qu'il a prises dans le grenier de sa maison, où il a remis en place tous les os, parce qu'il y avait 9 personnages qui étaient enterrés dans cette tombe, ou plus exactement réenterrés, comme si c'était un deuxième enterrement, et qui avait été placé de façon extrêmement précise. Et quand on voit le plancher de son grenier avec une photo où il y a à la fois les os, chaque objet remis en place, les 35 qu'il est allé chercher à la banque simplement pour les replacer, pour reformer l'ensemble de la tombe, on voit quand même que c'était le début d'une archéologie beaucoup plus scientifique, et que Casso avait compris qu'il venait de découvrir non seulement un trésor, mais peut-être une des choses les plus incroyables pour la découverte d'une civilisation comme celle des Mixtecs. Quand ils ont eu terminé leur exploration, il restait des centaines de petites perles et puis surtout des petits morceaux de turquoise qui étaient encore mélangés à la poussière. Et il fallait bien sûr tamiser tout cela et puis les mettre dans des petites boîtes. Et c'est pour vous montrer un peu comment on travaillait à l'époque. C'est Béatrice, la petite fille de Casso, puis la petite Susanna aussi, qui était la fille de Marquina, un autre archéologue qui les avait aidés. Et bien c'est elle qui était chargée de cette tâche. Et à un moment donné, on imagine la scène où Béatrice dit à Suzanne, écoute, tu vas t'occuper des perles d'or et de jade, et puis moi, ben je m'occuperai uniquement des petites perles et des petits carrés de turquoise. Quand on imagine la scène comme celle-ci, on comprend que ces enfants vivaient dans un véritable conte de fées, trier des perles d'or, des perles ou des perles de turquoise. Une façon de faire comprendre que, à un moment donné, eh bien, le travail se terminerait. De comprendre aussi que, quand il a fallu dire que dans cette terre, du fond de cette tombe, il ne restait plus rien, c'était un peu la fin de l'aventure. Ben, on venait de trouver ce véritable trésor et on avait pu reformer un peu l'image de ce que les conquistadors espagnols avaient dans leur tête. Et c'est surtout aussi d'imaginer comment ces hommes, ces premiers Espagnols venus au Mexique, ont pu ignorer la qualité absolument incroyable de ce côté artistique. Quand on voit le butin de cette tombe, on comprend que devant 7 kilos d'or, devant 3000 perles, et devant peut-être la plus belle, là je me rappelle d'un commentaire de Tiffany, et ça n'était pas n'importe qui à l'époque, c'était quand même le grand joaillier des États-Unis qui avait dit qu'une des perles du trésor de la tombe numéro 7 était certainement la plus belle du monde. C'est une perle baroque, vous savez, elle est grosse comme, comment vous dire, comme une noix peut-être, et elle a une forme très étrange, et elle se trouve à la fin d'un superbe collier. Quand on voit ces centaines d'objets de jade, de turquoise, de corail aussi, il y avait ces os que j'ai tenté de décrire, qui sont un peu comme des poignards parfaitement sculptés, dessinés et souvent perlés avec un petit rien de turquoise. Quand on voit ces coquillages, et pour la première fois, on avait trouvé même de l'ambre, on avait trouvé des perles et des objets de jais, des choses que l'on n'avait jamais vues, qu'on connaissait dans la littérature précolombienne, que les Aztèques nous avaient décrites, mais des choses que là, finalement, on retrouvait d'un seul coup comme si on avait pu revivre l'aventure de ces conquérants. Imaginez que ces gens-là étaient restés indifférents devant de telles merveilles, indifférents devant... J'ai envie de vous décrire juste un objet, c'est un pectoral. C'est un pectoral qui est fait de plusieurs parties. Il y a d'abord en haut un petit jeu de pelote. Le jeu de pelote a une forme de double T. Il y a deux dieux qui se trouvent de chaque côté. Des dieux qui représentent le Tezcatlipoca du jour et de la nuit, qui luttent un peu comme s'ils étaient dans le ciel. Juste en dessous, il y a un symbole qui est différent. C'est le symbole du soleil qui baigne dans le sang. La troisième plaque, c'est une sorte de couteau de silex, c'est le symbole de la lune. Et juste en dessous encore, vous allez retrouver cette façon étrange de reprendre la grande gueule du dieu de la mort, du dieu de la terre, enfin de tout ce qui est souterrain. D'un seul coup, vous avez la voûte céleste, vous avez le soleil, vous avez la lune, vous avez la terre. En un seul bijou, on vous remontre par l'écriture, par la gravure, par un travail à la cire fondue, par des travaux en filigrane, on vous montre le cosmos, l'univers entier d'un précolombien, d'un mixtèque. Juste avant 1930, on ne connaissait rien de cette civilisation. Et là, par un seul trésor, tout à coup, on a pu relier les mixtèques aux apothèques, relier les mixtèques aux aztèques, refaire tout un maillon de l'histoire du Mexique précolombien. Et regardez ce visage de Chipetotec. Chipetotec qui a été fondu d'un seul coup, d'une seule fois, à la cire fondue. Il a fallu trouver, bien sûr, le métal, ce métal incroyable. Il n'est pas très grand, il fait 7 cm de hauteur, il fait 98 grammes. Mais enfin, d'imaginer comment on avait pu ainsi représenter ce dieu des Mexicains, Chipetotec, notre seigneur l'écorché avec cette peau de la victime, avoir créé un moule qui était fait à la fois de poudre de charbon, peut-être en dessous d'argile, et puis ensuite mettre cette plaque extrêmement fine de cire mélangée à du copal pour arriver à créer la forme extérieure, bien sûr. Ensuite recouvrir ceci avec de nouveau de la poudre de charbon mêlée à de l'eau, laisser sécher pendant 2 jours, organiser le moule, laisser les petites ouvertures en haut et en bas, et enfin arriver avec ce récipient qui avait été surchauffé, avec ce liquide qui est devenu rouge et puis là, d'un seul coup, verser cela par la petite ouverture et attendre que l'ouverture d'en bas laisse écouler quelques gouttes d'or. Et vous savez qu'à l'intérieur, de manière magique, votre masque est là. Il fait une centaine de grammes, il a peut-être 7 cm de hauteur, mais c'est la plus belle chose que l'on puisse voir aujourd'hui dans les vitrines du musée de Santo Domingo à Oaxaca, où là, d'un seul coup, on vous présentera tout le trésor de la tombe numéro 7. Un trésor que maintenant vous avez découvert en compagnie d'Alfonso Casso, une histoire des années 30, un conte de fées, un peu comme on aurait pu découvrir un tombeau du côté de Mycène quand on était Schliemann, ou éventuellement celui que j'évoquais en Égypte, celui de Toutankhamon dans les années 20, avec ses premiers grands découvreurs comme Carter. C'est vrai, Casso venait de vivre la plus belle aventure archéologique du Mexique. Il venait de nous prouver que l'orfèvrerie était arrivée au XIIe siècle et qu'avec 35 objets dans une simple boîte en carton, on pouvait refaire un monde. Et maintenant, imaginez Monte Alban à 2000 mètres d'altitude, brillant sous le soleil, comme l'or brillait dans la tombe numéro 7.